Zinte, vous allez suivre, est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Julien Clémenceau de Jeune Afrique. Bonjour Julien.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous recevons comme grand invité l'homme d'affaires nigérien Ibrahim Idiongo. Bonjour Monsieur Idiongo.
Bonjour Monsieur Boris.
Ibrahim Idiongo, vous êtes né à Niamey il y a près de 68 ans. Vous êtes aujourd'hui le PDG de la compagnie d'assurance et de réassurance du Niger, PDG de la seule cimenterie du Niger, la Malbaza Cement Company, président de Airtel Niger, le premier opérateur de téléphonie cellulaire du pays. Vous êtes aussi présent dans la promotion immobilière. Alors avec vous, Ibrahim Idiongo, au cours de cette émission, nous allons évoquer vos multiples activités industrielles et économiques, votre parcours, la manière dont vous contribuez à l'essor économique du Niger et le regard que vous portez sur l'économie africaine. Au cours de cette émission, nous entendrons le ministre des Postes et de l'économie numérique de votre pays, Sani Maïgochi, et le nouveau président de la Banque mondiale, David Malpass. Ibrahim Idiongo, nous allons d'abord faire plus ample connaissance avec vous grâce aux questions qu'a préparées à votre intention Julien Clémenceau.
Bonjour Ibrahim Idiongo. En 76, donc à 26 ans, vous fondez une société d'assurance et de réassurance. C'est très jeune, c'était une vocation ?
Non, bonjour d'abord Monsieur Clémenceau, bonjour Monsieur Boris. C'était pas à proprement parler une vocation, j'y suis arrivé de manière totalement imprévu, parce que je me destinais à une autre fonction. À l'époque, vous savez, avant de passer donc son bac, on nous demandait de préciser notre orientation, ce qui était assez risqué d'ailleurs à cette époque, mais on ne pouvait pas y échapper, parce que nos pays répondaient à une certaine planification des ressources humaines qui était assez bien réglée. Et donc j'avais choisi plutôt une carrière dans la haute fonction publique, notamment spécialement dans l'administration des douanes. Et ça, c'était avant le bac. Et après le bac, 4 ans, après la licence, mes études universitaires, 4 ans après, donc c'est dans les années 74 précisément, après cette licence, j'étais attendu donc pour être inscrit à l'école de douane de Neuilly. Et là, j'avais complètement oublié l'option que j'avais faite il y a 4 ans et je découvrais que c'était absolument pas du tout ce qui correspondait à ma vocation. Et je voulais faire autre chose. Ce que j'avais choisi, c'était le secteur financier, le secteur bancaire, qui m'a été refusé. On m'avait dit que la seule option possible pour moi, pour trouver un emploi, ce serait de faire une spécialité dans le secteur des assurances. Il se trouvait qu'il n'y avait pas de cadre du tout à ce niveau-là, d'école supérieure diplômée dans le secteur des assurances. Et puis, après avoir pris conseil à gauche, à droite, auprès de ma famille, on m'a dit, bon, ben écoute, c'est un métier totalement, c'est un secteur totalement inconnu. Il n'y a pas de Nigérien cadre supérieur à cette époque. Pourquoi ne pas te lancer? Et puis voilà, commençant, je me suis lancé. Et j'ai fait mes études donc de spécialité en assurance pendant 2 ans, en 76. Et je suis sorti en 76. Le pays était dirigé par le colonel Seyni Kounté et qui avait donc éprouvé également le besoin de doter le pays d'une compagnie d'assurance nationale, parce qu'à cette époque, c'était des agences de compagnies étrangères, notamment françaises. Et il fallait donc créer rapidement une compagnie d'assurance. Et alors donc, à 26 ans, on m'a demandé, on m'a dit, bon, le ministre des Finances de l'époque m'a dit, puisque vous avez fait des études dans les assurances, mais j'avais pas étudié pour créer une société d'assurance, j'avais étudié pour savoir comment...
Donc, on vous a demandé de créer en quelques mois le premier assureur du pays.
Ah, tout à fait.
Ça n'existait pas auparavant au Niger.
Ça n'existait pas, c'était au mois de septembre, donc 1977 exactement. Et je devais créer cette compagnie pour qu'elle soit opérationnelle en janvier 1978. Donc, 4 mois après.
Et donc, mais il y avait du personnel compétent sur place?
Il y avait du personnel qui fonctionnait dans les agences d'assurance des sociétés françaises, mais il faut savoir qu'il n'y avait pas de société. Donc ce personnel nigérien qui était là avait surtout une expérience d'agence, pas de société. Donc il n'y avait absolument aucune expérience préalable de qui que ce soit dans une société d'assurance. C'était quelque chose qu'il fallait faire ab initio. Il n'y a pas eu de d'expérience là-dessus et il fallait qu'on crée la société quatre mois après.
Donc, en 78. Vous étiez donc titulaire d'un DESS en assurance que vous avez obtenu au Cameroun. On dirait aujourd'hui un Master 2.
Oui.
Et vous allez créer cette compagnie que vous allez diriger pendant 11 années.
C'est ça.
Est-ce que vous avez aimé être au service de l'État?
Absolument, c'était une véritable passion parce que le pays était mobilisé vraiment dans une bataille du développement. Il sortait d'une situation extrêmement difficile. Il y avait la famine quelques 2 ou 3 ans avant. Et donc, il y avait une réorganisation très dirigiste du pays et on était véritablement passionnés de pouvoir servir l'État. C'est ce que j'ai fait pendant donc 11 années à la tête de cette entreprise qui a remboursé quasiment 6 fois ou 7 fois le capital investi. Donc, c'était une très grosse opération qui était très rentable pour l'État. Et c'était d'ailleurs l'une des sociétés les plus rentables de l'époque pendant toutes ces années et pendant 11 ans, avec l'aide, bien sûr, d'une assistance technique qui venait de notre pays, notamment la Tunisie. Nous avons créé donc cette société. En 4 mois, la société était opérationnelle. Bien sûr, il fallait passer la nuit au bureau plutôt que dans les boîtes de nuit, parce qu'à 26 ans, on pouvait plus penser à aller ailleurs que de passer sa nuit au bureau. Mais c'était à ce prix qu'il fallait créer cette société. Et on y est arrivé et on a créé une société extrêmement florissante. Et pendant 11 années, comme je vous dis, il y a des années où on a remboursé la même année 100% du capital.
Alors, quand on lit votre CV, on est étonné par la liste impressionnante de fonctions que vous avez occupées, à la tête de banque, à la tête de compagnie d'assurance, d'organismes et de fédérations professionnelles. On voit aujourd'hui que vous êtes dans la cimenterie, vous êtes assureur, vous faites de la promotion immobilière.
Qu'est-ce qui explique dans la téléphonie.
Et dans la téléphonie, oui, président d'Airtel Niger. Qu'est-ce qui explique cet appétit de défis, de fonctions, de challenges?
C'est la passion de construire quelque chose, de pouvoir faire quelque chose d'utile, de pouvoir faire progresser mon pays, de créer des emplois, de moderniser l'industrie de mon pays. Et partout où des secteurs qui sont porteurs, qui sont des secteurs qui apportent de la valeur ajoutée, qui renforcent donc la croissance du pays, qui créent des emplois, tout ceci est un challenge qui m'intéresse. Et c'est pour cette raison que je me suis diversifié. Il faut dire que également la posture de directeur de compagnie d'assurance permet aussi de voir les différents métiers, parce que pour assurer, on assure toutes les activités professionnelles, les activités commerciales humaines. Donc ça donne un kaléidoscope quand même des activités de l'économie, du pays, de ce qui est utile, de ce qui est, etc.
Vous êtes un monopole à vous seul?
Oh non, parce que j'ai toujours détesté le monopole. J'ai toujours voulu me battre, j'ai toujours voulu arracher les positions et j'ai toujours voulu être confronté. Et toute ma vie, j'ai vécu dans un secteur hautement concurrentiel dans tous les domaines.
Alors, Ibrahim Idiango, venons-en à vos activités aujourd'hui. Le 20 mars dernier, vous avez inauguré la cimenterie de Malbaza dans la province de Tawa. Quelle est l'importance de cet équipement pour l'économie du Niger? Qu'est-ce que vous avez monté précisément?
Alors, cette cimenterie, je disais qu'elle répond à un besoin énorme, mais surtout elle corrige une anomalie, pour moi une anomalie économique, que parfois j'ai qualifié d'incongruité économique. Pourquoi? Parce que le Niger est l'un des rarissimes pays à disposer de toutes les matières premières nécessaires à la fabrication du ciment. Calcaire, argile, gypse, etc. Gypse surtout, mais parce que c'est une matière première qui est très rare, qui est très rarement disponible dans nos pays. Et le Niger est le seul pays qui réunit toutes ces matières premières dans son sous-sol et qui peut donc fabriquer du ciment sans avoir besoin d'importer une quelconque matière première. Et jusqu'à l'avènement donc de cette cimenterie qu'on a inaugurée le 20 mars, il n'y avait pas de cimenterie moderne. Il y avait bien sûr une ancienne cimenterie, mais qui a été construite dans les années 70, qui était complètement dépassée, obsolète, etc. Et le Niger donc importait la quasi-totalité du ciment dont il avait besoin pour construire ses infrastructures.
De quel pays?
Des pays voisins du Togo, du Bénin, du Nigeria également.
C'est le milliardaire Dangote qui fournissait le ciment au Niger?
Oui, qui fournissait entre autres fournisseurs, qui fournissait également le ciment au Niger. Parce que, il n'y avait pas d'industrie locale. Et pour nous, il fallait corriger cette anomalie. Ce qu'on apporte au Niger, c'est déjà de pouvoir se passer de cette importation qui coûte environ 100 milliards chaque année. Les Nigériens exportent 100 milliards pour acheter du ciment.
Donc 100 milliards de francs CFA.
De francs CFA. Enrichir donc des sociétés extérieures qui n'emploient pas forcément...
Ça fait 150 millions d'euros à peu près.
150 millions d'euros, ouais. Qui n'emploient pas des Nigériens, qui ne payent pas beaucoup d'impôts non plus. Et il fallait, je pense, corriger cette anomalie. Surtout qu'on avait toutes les matières premières nécessaires. Donc c'était un véritable challenge, c'était un défi. Et il fallait absolument à tout prix doter le Niger d'une industrie comme celle-là, parce que le ciment est quand même un produit absolument stratégique aujourd'hui pour construire nos pays.
Est-ce que ça a été difficile de monter ce projet, de monter cette cimenterie que vous avez donc inaugurée le 20 mars dernier?
Extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que au départ, on est rentré dans un schéma classique, celui qui consiste pour les financiers, plus ou moins à imposer un schéma de partenariat classique, c'est-à-dire partenaire local, avec un partenaire extérieur, technique et financier qui s'y connaît dans le secteur. Et donc c'est à ce prix-là que vous êtes susceptible de mobiliser les ressources nécessaires au financement de votre projet. On est rentré dans ce schéma.
Quand vous dites les financiers, vous parlez plutôt des banques et des institutions de développement de...
Oui, des banques locales, internationales, etc. Parce que c'est un peu le schéma qu'on... Lorsque vous avez un projet, quel qu'il soit, on vous dit, très bien, vous n'êtes pas les spécialistes du secteur. Entourez-vous de quelqu'un, associez-vous à quelqu'un, un partenaire, qui soit quelqu'un de spécialisé dans le secteur. C'est ce que nous avons donc cédé à ce schéma qui devait fonctionner, qui a un certain confort parce que vous ne vous y connaissez pas. Vous apportez donc votre contribution financière et puis aussi vous devenez un peu le démineur local. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles sur le plan local, administratif, les codes des investissements, etc. Vous, partenaire local, c'est vous qui devenez le démineur local. Et le partenaire apporte son know-how et puis son expertise, etc. Et puis voilà, sur le plan financier, c'est lui forcément qui gère le projet parce que c'est lui qui dote la société d'équipement, etc. Donc ce schéma, s'il fonctionne et que tous les partenaires respectent les règles du jeu, c'est un schéma qui est acceptable, mais acceptable.
Et donc les partenaires n'ont pas respecté les règles du jeu?
Oui.
Mais quels partenaires?
Je me permettrai de ne pas les citer dans cette...
On le sait, ce sont les Indiens.
Oui, voilà. Oui.
C'est les partenaires indiens qui
vous
ont
fait.
Qu'est-ce qui s'est passé avec eux?
Il s'est passé que dans l'exécution du projet, on s'est rendu compte que il y a eu des pratiques et des procédures qui ont été empruntées, qui n'étaient pas respectueuses, disons, des règles d'orthodoxie financière, pour être...
Vous les avez dénoncées vigoureusement lors de votre discours d'inauguration, alors c'est pas des secrets.
Oui, on les a dénoncées effectivement, parce que je pense qu'il fallait faire état du processus et de toutes les difficultés que nous avons rencontrées pour en arriver là,
Quand vous dites qu'ils n'ont pas respecté les règles d'orthodoxie financière, ça veut dire quoi? Ils vous ont fait faux bond? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Dans la conduite du projet, il y a des procédures donc à respecter concernant l'acquisition des équipements, des appels d'offres, la concurrence, etc. Les pays, d'une certaine manière, respecter les prix qui sont les prix du marché. Et donc, dans l'ensemble de ces conditions d'acquisition d'équipements et de paiement de ces équipements, il y a un certain nombre de règles classiques d'appel d'offres, du respect des prix, etc., de la concurrence, qui n'ont pas été respectées. Nous en sommes aperçus avant la fin du projet. Et donc, à partir du moment où nous sommes aperçus, nous avons considéré que ces pratiques mettaient à mal la confiance qui devrait présider à la conduite d'un projet de cette importance. C'est-à-dire...
Ils essayaient de vous rouler dans la farine.
C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et nous considérons...
En vous faisant payer trop cher le matériel qu'ils mettaient à votre disposition, c'est ça?
C'est un peu ce qu'on a pu déceler, au moins dans certains domaines. Et nous avons estimé que la base du partenariat, c'est la confiance, c'est l'affectio societatis qui est important. Si ça n'existe pas, vous ne pouvez pas conduire un projet d'une telle importance. Et donc... Tirant les leçons de ce que nous avons constaté, on ne pouvait pas continuer ensemble sur le même chemin. Il fallait se séparer. Alors, et c'est ce que nous avons fait.
Comment avez-vous fait? Vous avez trouvé un autre partenaire stratégique?
Alors, c'est ça le grand défi. Le projet était très avancé du point de vue de sa construction. Il était difficile en ce moment-là de trouver un partenaire stratégique, technique et financier pour pouvoir les remplacer. Il n'y avait plus pour nous possibilité de faire marche arrière sur ce projet. C'était impossible. Les fonds étaient importants. Les institutions financières qui nous ont fait confiance avaient mis également beaucoup de financement là-dessus. Il fallait absolument sauver ce projet. On était échaudés. On était extrêmement méfiants. Nous avons décidé finalement de prendre une autre option. C'est-à-dire, c'est quoi? On s'est dit, le partenariat technique et financier, nous allons essayer de régler ce problème technique. Parce que sur le plan financier, on avait bouclé déjà le financement. Donc, on n'avait pas forcément besoin d'un partenaire financier. Ceci dit, il y a beaucoup de partenaires qui ont tapé à notre porte en se disant, mais voilà une opportunité, un partenaire est parti, c'est quand même un projet intéressant dans un pays qui dispose de toutes les matières premières. Et donc, notre projet suscitait l'intérêt d'autres partenaires. Mais nous avons refusé pour tenter, et nous avons réussi à trouver un partenaire technique qui n'était pas financier, qui n'avait rien à voir avec la partie financière.
Et donc, vous êtes tourné vers quel partenaire ?
Un partenaire qui est installé dans le Moyen-Orient, ce sont des cabinets, en réalité, qui sont spécialisés dans l'accompagnement des cimenteries pour la finalisation de leurs projets et le démarrage de leurs activités. Donc, ça existe. Comment nous les avons trouvés ? Nous sommes tournés vers d'autres cimenteries qui fonctionnent, mais qui ont eu plus ou moins certaines expériences comme analogues à la nôtre. Et on a reçu des conseils de ces gens qui nous ont donné des adresses. Nous avons contacté, on a évalué et nous avons choisi un partenaire technique. Et il s'est avéré que ce partenaire était un excellent partenaire qui a bien fonctionné, qui nous a aidés, qui nous a soutenus et qui nous a permis de terminer ce projet dans d'excellentes conditions techniques. Et depuis 3 mois que cette entreprise fonctionne, elle est à un niveau de performance absolument exceptionnel. En 3 mois, nous avons atteint des niveaux de performance atteignant 90% de la capacité théorique des équipements, là où il faut plus d'un an pour atteindre ce niveau de capacité. Donc c'est pour dire aujourd'hui, après l'expérience qu'on a eue de ce schéma, il est possible pour des Africains, des investisseurs africains qui sont décidés, persévérants, qui ont de l'audace, qui ont foi à leur projet, de pouvoir conduire un projet complexe sur le plan technologique sans avoir l'obligation de s'associer à un partenaire technique et financier. Ils ont besoin d'un partenaire technique, mais à mon avis, ce n'est pas forcément le schéma qui conduit au meilleur résultat à chaque coup.
Mais vous dites quand même, vous avez dénoncé des pratiques commerciales détestables à la suite de l'ouverture de cette cimenterie. À quoi avez-vous dû faire face ?
Eh bien, quand on a ouvert donc cette cimenterie, nous avons évidemment commencé à écouler notre production, tenter du moins de l'écouler, mais il se trouve que le marché était déjà occupé par les produits qui venaient des pays extérieurs, des pays voisins nécessairement. Et donc, le réflexe de ces fournisseurs de ciment du marché nigérien a été, bien entendu, de pratiquer une baisse, un dumping, en fait, sur le plan commercial, pour pouvoir résister à la production du ciment local.
C'est ce que vous réclamiez dans votre discours d'inauguration. Vous disiez que les prix étaient vraiment trop élevés, qu'on faisait payer trop cher le ciment à vos compatriotes. Donc finalement, ils se sont adaptés, c'est la loi du marché.
Ça s'est pas fait de cette manière. Les prix étaient trop chers avant que notre société commence à fonctionner. Dès que la société a commencé à fonctionner, nous avons fixé des prix qui sont plus bas que les prix du ciment qui était importé. Et donc la réaction a été immédiatement de baisser en dessous encore de notre prix, parce qu'il fallait défendre des parts de marché. Et ces pratiques que nous avons dénoncées, parce qu'on s'est rendu compte très bien que c'était pour mettre en difficulté notre entreprise, qui est toute neuve, qui a des amortissements à faire, des remboursements à faire. Et eux avaient d'abord une capacité de production beaucoup plus importante que la nôtre, en millions de tonnes. Nous, on en a un peu moins qu'un million, et ils étaient en millions de tonnes. L'équipement était amorti, ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes financières que nous avons, et ils pouvaient se permettre.
Alors donc là, vous, le représentant du secteur privé, implanté dans plusieurs secteurs, vous demandez l'aide de l'État, vous demandez à ce que l'État régule le marché du ciment. Vous ne croyez pas aux forces autorégulatrices du marché?
Je crois aux forces autorégulatrices du marché lorsque les règles du jeu sont honnêtement appliquées. Mais lorsque les règles du jeu sont complètement faussées et que ce n'est pas forcément à destination du consommateur pour lui mettre un produit moins cher, mais c'était pour démolir une entreprise naissante. Là, on n'est plus dans l'autorégulation, on est dans la démolition. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et la régulation du marché, vous savez, vous voyez très bien que c'est les plus grands champions, les plus grands prophètes de la libéralisation qui ont inventé la préférence nationale, le patriotisme économique, c'est pas ça vient pas de moi. Donc, quand on veut dire effectivement qu'il faut laisser un marché libre,
on peut une fois de plus faire référence à Dangote, oui, qui profite effectivement souvent de conditions favorables au Nigeria et d'un certain protectionnisme.
Absolument, voilà. Donc, on ne peut pas exporter des pratiques dans un autre pays alors qu'on les dénonce chez soi et qu'on se fait protéger par ces autorités pour pouvoir assurer l'écoulement de son produit sur le marché local. Mais lorsqu'on est dans un autre pays, lorsqu'on exporte, et là, en ce moment, on invoque les règles de l'autorégulation, de la liberté d'échange, etc., alors qu'à l'intérieur, on bénéficie d'un certain protectionnisme. Tout à fait, vous le savez très bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Ibrahim Idiango, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique et vous répondez aux questions de Julien Clémenceau.
En 2019, l'économie nigérienne devrait connaître une croissance plus soutenue que l'an dernier, avec un PIB en hausse de 6,5%. Qu'est-ce qui porte la croissance de votre pays ?
La croissance de notre pays est portée par des produits, de la mise en exploitation de certaines ressources minières qui n'étaient pas exploitées dans un passé récent, par également le secteur agricole qui, évidemment, en certaines années connaît une vraie embellie. Mais évidemment, pour ceux qui concernent ce secteur, la situation est quand même assez erratique. Mais il faut savoir qu'il y a des produits du sous-sol minier au Niger qui sont en train d'être mis en transition, notamment le pétrole. Le Niger est depuis quelques années un producteur de pétrole pour ses besoins et autonome et autosuffisant pour ce qui concerne les produits raffinés. Mais dans les prochaines années, c'est pour ça qu'en 2019 et dans les deux à court terme, le Niger va être un exportateur de produits bruts, de pétrole brut, au-delà de près de 100 000 barils jour, ce qui est considérable par rapport aux recettes que nous avons. Donc, il faut savoir que la prochaine décennie économique sera fantastique pour le Niger. Il y a des éléments qui sous-tendent la préparation d'une croissance importante sur le plan économique nigérien. Il y a l'or, il y a le phosphate, on a du charbon, quoi qu'on dise par rapport au...
Vous avez obtenu des contrats d'exploration sur le charbon?
Absolument, l'exploration sur le charbon, parce qu'on a besoin de cette source d'énergie pour faire tourner notre cimenterie.
Donc là, c'est encore un nouveau secteur dans lequel vous allez explorer vos capacités, vous aussi, à mener... de nouvelles affaires.
Tout à fait, mais bon, ça, sauf que c'est un complément quand même de la chaîne de production de notre cimenterie. Ce ne sera pas du charbon à exploiter pour produire l'énergie électrique et la mettre à disposition du public, mais c'est surtout pour économiser nous au niveau de nos coûts de production, parce que les coûts de production sont extrêmement importants. Donc, je voulais dire, il y a un certain nombre d'éléments qui sous-tendent l'économie nigérienne, qui permet de préfigurer que dans la prochaine décennie, le Niger connaîtra un destin économique fantastique. Et vous savez,
vous y croyez vraiment? Parce que vous parlez du pétrole, mais beaucoup de pays qui, le Nigeria par exemple, qui ont du pétrole, ont aussi d'énormes problèmes pour gérer cette ressource. Est-ce que le Niger est prêt à affronter cette manne pétrolière? Est-ce que ça ne va pas perturber, au contraire, l'économie, accroître des phénomènes de corruption, etc.?
Vous savez, je crois qu'il faut tirer les enseignements de ceux qui sont passés par là. Et je pense que le Niger va tirer les enseignements des pays qui ont eu cette manne et qui l'ont gérée d'une certaine façon. Ensuite, en dehors du pétrole, je vais vous donner quand même un indicateur. Vous savez, on parle aujourd'hui de la création d'un meilleur climat des affaires. Tous les pays le disent aujourd'hui. Mais je ne sais pas si vous savez que le Niger, concernant l'amélioration du climat des affaires, en particulier l'indice que sur lequel tout le monde s'accorde à dire qu'il a une certaine pertinence concernant le doing business.
Oui, enfin, il est contesté quand même.
Bon, il est contesté, il serait remplacé par quel indice, je ne sais pas pour l'instant. Il y a beaucoup qui le contestent, mais ils ne proposent pas une alternative à cet indice. Donc, en attendant, on peut continuer à utiliser celui-là, en attendant qu'on puisse trouver un autre indice moins contestable. Mais il faut savoir que en 3 ans, 4 ans, le Niger a fait un gain de 33 places dans le classement Doing Business. Et on est passé de 176e place à 146e en 3 ans. Ce qui veut dire qu'on fait un travail de fond, un travail profond de mutation de l'économie. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Et pourtant, bon, on le fait avec sérieux, avec humilité. Vous n'entendez pas de fanfare parce que un autre pays qui gagnerait 33 places va organiser un feu d'artifice toutes les semaines. Mais le Niger est un pays où la population sont des gens sérieux, qui travaillent en profondeur. Et allez-y, vous allez...
Vous êtes un proche du président Issoufou ?
Non, pas spécialement. Je ne suis pas encarté dans le parti du président Issoufou, mais il est de mon devoir, en tant qu'acteur économique, de dire ce qui se passe au Niger. Et je le dis en toutes circonstances, je crois que en dehors de problèmes politiques, il ne faut pas être conditionné par le problème politique. Quand on a des responsabilités d'acteur économique, il faut dire ce qui se passe dans le pays. Le pays est en train de connaître une véritable mutation économique. Et ça, c'est quelque chose qui se voit. Ce sont des indices dont je viens de parler.
Vous êtes extrêmement optimiste pour la décennie à venir, vous nous l'avez dit. Mais depuis 2012, le Niger fait quand même face à un problème terroriste très grave avec Boko Haram, avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, avec Daesh. On a du mal à croire que tout ça n'a pas un impact fort sur l'économie et les capacités de développement du pays.
Mais pourtant, vous suivez, vous êtes des hommes de l'actualité, vous voyez très bien qu'effectivement, le Niger fait face à ce défi de Boko Haram, ça c'est sûr, mais vous voyez très bien, faites une comparaison par rapport aux pays de la région qui sont confrontés au même phénomène, mais vous verrez, entre guillemets, on est presque dans un îlot. Au Niger. C'est vrai que l'extrême est du pays est souvent, et même récemment encore, il s'agit du cas de Diffa attaqué par les gens de Boko Haram, mais ça reste quand même circonscrit. Mais regardez très bien les autres pays qui nous entourent, je ne vais pas les citer, mais je veux dire que ça éclate de partout, sur l'ensemble quasiment du territoire. Mais au Niger, on est à l'extrême est et à l'extrême ouest. Et ce n'est pas pour rien, nous sommes frontaliers de quel pays dans ces deux coins. Voilà ce qui explique cela. Mais à l'intérieur...
Vous rejetez un peu la faute sur les pays voisins.
Je ne rejette pas la faute sur les pays voisins, mais je dis que c'est un phénomène dont le Niger est victime. Ce n'est pas des foyers de tension qui ont pour origine le Niger, mais qui débordent sur le Niger.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
Ibrahim Idiango, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Alors voilà un autre acteur qui s'invite sur le continent africain, c'est la Chine. La semaine dernière avait lieu à Pékin le deuxième sommet des nouvelles routes de la soie. Et Sani Maïgochi, le ministre des Postes, des Télécoms et de l'économie numérique du Niger, y était. Stéphane Lagarde, le correspondant de RFI, a pu le croiser. Écoutez ce qu'il lui a dit.
Nous sommes venus participer à ce forum puisque... Nous avons une coopération assez stratégique avec la Chine. Le gouvernement chinois est en train d'investir au Niger pour promouvoir des infrastructures. Ils interviennent dans le secteur pétrolier. Donc il y a d'importantes infrastructures à construire pour l'évacuation et le transport du pétrole nigérien raffiné et brut qui sont en train d'être construites par le gouvernement chinois. Et dans le cadre aussi des télécommunications, des TIC, nous avons une très forte coopération.
Un petit scoop pour RFI, qu'est-ce qui va être dégagé? Qu'est-ce que vous allez sortir d'ici?
En fait, ce qui doit sortir d'ici, c'est qu'il y a des opportunités nouvelles et que nous sommes à la recherche des investisseurs.
Concrètement, quel secteur? Parce que vous savez, nos auditeurs...
Le secteur des télécommunications, de l'économie numérique, à travers la construction de la fibre optique, par exemple, à travers la couverture en mobile, Internet et autres. Voilà.
Ibrahim Idiango, la Chine s'impose comme un partenaire important pour le Niger. Ses entreprises contribuent à exploiter votre sous-sol, elles construisent des infrastructures. Est-ce que c'est un partenaire fiable, la Chine ?
Fiable, ça dépend de fiable à quel point de vue. C'est-à-dire,
est-ce qu'il ne conduit pas le pays à s'endetter ?
Bon, s'il faut investir et s'il faut construire des infrastructures qui sont absolument nécessaires pour le pays... pour son développement, pour faciliter son expansion industrielle. Et puis là, en l'occurrence, le ministre vient de parler de la construction du pipeline pour exporter le produit brut et raffiné dont je parlais. C'est un pipeline, il faut savoir, de près de 2000 kilomètres. Et que le Niger n'a pas les ressources pour le faire et qu'il en a besoin absolument, il va s'endetter. Le tout, c'est pas l'endettement qui est le plus important. C'est d'abord les conditions de l'endettement qu'il faut discuter. La deuxième chose, il faut savoir que le taux d'endettement du Niger, le ratio d'endettement du Niger, qui est fixé par l'UMOA, le Niger est nettement en dessous encore du ratio.
Donc c'est 70% hein, fixé par l'UMOA.
C'est 70% fixé par l'UMOA.
70% du PIB.
Du PIB. On en est loin, on est autour de 50% dans le cas du Niger, c'est sûr. Et pourtant, malgré ça, je crois qu'il y a une très grande prudence qui est faite en ce qui concerne le problème de cet endettement. Donc nous avons encore une marge de progression. Alors, je pense que si on a besoin de ces infrastructures, que c'est la Chine qui propose les meilleures conditions de construction de ces infrastructures et de l'endettement, pourquoi pas? Maintenant, il faut évidemment garder un œil sur le niveau d'endettement et la capacité de remboursement du Niger. Mais tout ça, évidemment, est le travail de ceux qui ont en charge les finances publiques et qui le regardent de très près. Nous, on regarde quel est le niveau aujourd'hui du ratio d'endettement du Niger. Est-ce qu'il est au-dessus ou est-ce qu'il est en deçà? Aujourd'hui, il est en deçà. Donc, par rapport à ça, je pense qu'on n'a pas lieu de s'alarmer.
Ibrahim Idiango, est-ce que vous-même, vous seriez intéressé par un partenariat avec des Chinois pour développer vos affaires?
Absolument.
Ça... Vous allez en Chine?
Non, pas spécialement. Pas spécialement, mais je peux parfaitement être intéressé. Moi, je pense qu'il faut tout mettre sur la table. Il ne faut pas y avoir d'a priori. Il n'y a pas d'a priori à avoir. Je crois que quand on a une certaine expérience des affaires, on met tout sur la table et puis on met le mécanisme qui est nécessaire pour le faire et puis on met les verrous de contrôle, etc. Sinon, on peut faire des affaires avec les Chinois comme avec n'importe quel autre investisseur. On n'a pas d'a priori contre les Chinois, absolument pas. Moi, mon a priori, c'est lorsque le partenaire veut nous flouer, ça, par contre, ça, non. Quelle que soit sa couleur, ça ne marchera pas.
Question de Julien Clémenceau de Jeune Afrique.
La présence chinoise, donc, elle vient contrebalancer un petit peu la présence française et l'influence française. On voit qu'aussi la chancelière Merkel était présente hier au Niger. Ce sont de bonnes choses.
Il n'y a pas lieu d'opposer, c'est pas une affaire de compétition ou d'opposer telle origine de ressources pour financer notre développement par rapport à telle autre. Je crois qu'on a une gamme de besoins assez étendue, on a des besoins dans presque tous les secteurs pour pouvoir faire avancer notre économie. S'il y a des partenaires que nous avons, des partenaires traditionnels qui l'ont fait jusqu'ici et qui eux aussi pour des raisons qui leur sont propres ne peuvent pas le faire, continuer à le faire ou ne peuvent pas s'étendre dans un autre secteur, mais pourquoi pas diversifier les partenaires, je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Moi je me souviens concernant le secteur du pétrole. Pendant très longtemps, le pétrole nigérien est resté non exploité. Pourquoi? Parce que les dirigeants de l'époque avaient estimé qu'il fallait faire la mise en exploitation du pétrole, mais il fallait faire une raffinerie en même temps. Parce qu'ils ne concevaient pas qu'on produise du brut, qu'on l'exporte par des pipelines jusqu'au port de Cotonou, qui est à peu près à 1000 ou 2000 kilomètres des gisements pétroliers. Il va traverser la mer et revenir en produit raffiné pour être utilisé. Donc ça a été une condition qui a été mise à côté de la mise en exploitation du pétrole. Pendant très longtemps, des décennies, ce pétrole est resté inexploité. À chaque fois que les sociétés pétrolières, que ce soit à l'époque Elf, que ce soit Exxon, etc., il leur a été demandé de coupler cette exploitation avec une raffinerie. Et je me souviens que j'ai rencontré un des représentants de ces sociétés pétrolières qui m'a dit, mais écoutez Ibrahim, il est absolument aberrant pour le Niger d'exiger de faire une raffinerie parce que la moindre raffinerie, la plus petite, coûte $1 milliard. Et on ne voit pas comment on peut rentabiliser un tel investissement. C'est resté comme ça pendant un certain nombre d'années. Les Chinois sont venus taper à la porte quand ils sont arrivés. Ils connaissaient déjà les règles du jeu qui avaient été établies avant et qui n'avaient pas été acceptées par les autres opérateurs. La question pour eux a été de dire, quelle est la taille de la raffinerie dont vous avez besoin? Ils n'ont pas dit on ne vous construit pas de raffinerie. Maintenant, la discussion pour eux, c'est la taille de la raffinerie. Finalement, c'est eux qui ont mis en exploitation le pétrole parce qu'ils ont fait une raffinerie aujourd'hui qui a rendu le pays autonome, autosuffisant sur le plan du pétrole. Donc voilà un exemple de diversification. C'est pas que on a mis une barrière à des anciens partenaires, etc., où on fait une concurrence. Non, il y a des anciens partenaires qui étaient là, qui n'ont pas voulu s'embarquer dans ce schéma économique parce qu'ils le trouvaient pas rentable. Les autres sont arrivés. Le Niger en avait besoin, mais chiche.
Alors la présence chinoise en Afrique, la Banque mondiale y porte beaucoup d'attention. Son nouveau président, David Malpass, vient d'effectuer son premier déplacement sur le continent. Et lors de son escale à Madagascar, avant d'aller au Mozambique puis en Éthiopie, il a accordé une interview à la correspondante de RFI sur place, Laure Verneau, le président de la Banque mondiale.
Les rapports de la Banque mondiale avec la Chine sont en constante évolution parce que la Chine elle-même évolue beaucoup. La Chine s'en sort très bien économiquement. Elle est dans une position où elle peut réduire ses emprunts auprès de la Banque mondiale et c'est ce qui est en train de se passer. La Chine est désormais aussi en mesure de partager avec le reste du monde les leçons tirées de la lutte contre la pauvreté. Cela a été un succès. 850 millions de personnes en sont sorties. En partie parce que les politiques mises en place ont aidé les marchés. Elles ont libéralisé les prix, par exemple, pour les agriculteurs qui ont pu facturer au prix qu'ils voulaient. C'était une étape importante pour le développement du pays. Aussi, la Chine est un pays très investi en Afrique. L'une des directions que le pays doit prendre, c'est plus de transparence dans leur politique de prêt, en accord avec leurs lois et leurs pratiques de passation de marché lorsque les Chinois sont présents dans certains pays. C'est bien que la Chine aide les pays à se développer, mais cela doit se faire de manière à ce que cela soit juste pour les gens du pays.
It's good for China to help countries develop, but it needs to be on terms that are fair for the people of the countries.
David Malpass, le président de la Banque mondiale, au micro de Laure Verneau. Ibrahim Idiango, alors il y a deux volets dans cette déclaration du président de la Banque mondiale. Il y a le volet transparence que vous avez un peu évoqué tout à l'heure en réponse à nos questions. Et puis il y a le volet modèle. Est-ce que le développement économique de la Chine peut être un modèle pour les pays africains?
Moi, je pense qu'il y a aucun modèle d'un pays qui est transposable dans un autre pays. Aucun pays ne peut servir de modèle absolu à un autre pays. On peut prendre des références de ce modèle parce que la Chine, effectivement, comme a dit le président de la Banque mondiale, a réussi en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. Or, c'est là l'un des défis majeurs des pays africains, la lutte contre la pauvreté. Il y a très certainement des éléments de succès de cette politique qui sont transposables dans nos pays. Mais il est vrai que d'autres éléments ont trait à la culture même de la Chine, à la culture du peuple chinois. Cela ne peut pas être transposable parce que...
Mais quels sont les éléments qui peuvent être transposables et ceux qui ne peuvent pas l'être?
Écoutez, je suppose qu'il y a des éléments qui sont propres à la culture chinoise et au régime de développement chinois. Il y a une certaine dirigisme, une rigidité, etc., qui peut être appliquée parce que on peut parfaitement dire, par exemple, l'accès à tel service public, à telle facilité ne sera faite qu'à condition que vous fassiez telle chose ou telle chose, etc., que vous pliez à telle exigence, qui peut être une exigence qui peut ne pas être transposable dans notre pays. Et vous savez très bien de quoi je parle. Donc,
oui, de l'autoritarisme chinois.
De l'autoritarisme chinois, qui peut ne pas être...
Enfin, et le mot autoritarisme est parfois faible.
Oui, bon, ça c'est... En tout cas, autoritarisme, moi j'ai parlé du dirigisme, parce que c'est ça qui est appliqué. Bon, maintenant, à partir de ce moment-là, il y a d'autres éléments. On peut réfléchir, on peut voir que les secteurs, la façon dont l'incitation est faite pour pouvoir sortir les gens de la pauvreté, on peut transposer ces éléments sans utiliser les mêmes méthodes pour que les gens puissent accéder. Donc, je pense qu'il y a des éléments de modèles qu'il faut tirer, de comparaison, de transposition, mais on ne peut pas prendre le package tel qu'il est et puis le transposer.
Vous-même, par vos activités, vous avez contribué à sortir des gens de la pauvreté au Niger?
Mais énormément, des milliers de gens. Je ne prends que l'exemple de la cimenterie dont on a parlé tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure des matières premières dont on a besoin. Le gypse en est une de ces matières dont on a besoin. Notre cimenterie dispose de permis d'exploitation de gypse. Nous avons décidé de ne pas l'exploiter nous-mêmes. Nous avons la capacité de le faire avec des engins. Mais nous avons préféré externaliser cette activité au profit du groupement villageois qui doivent nous apporter le gypse qui est nécessaire à la fabrication du ciment. Et ce produit est un produit d'accès facile parce que il n'est pas enfoui, il est à fleur du sol et surtout après les saisons des pluies, le sol est décapé, vous avez le gypse. Et plutôt que de l'exploiter nous-mêmes par des moyens industriels, nous avons décidé de donner de l'emploi aux groupements villageois qui sont dans toute la région. On parle de 10 000 personnes qui s'occupent de nous ravitailler. Et c'est combien, si vous me demandez combien nous injectons, c'est à peu près 3 milliards de francs CFA par an, ce qui n'est pas rien dans une région complètement rurale. Et là, ça permet aux gens d'avoir des revenus, ça lutte contre l'exode rural, parce que ces gens, s'ils n'ont pas d'activité, ils quittent le Niger pour aller dans des pays voisins, pour aller autre chose, enfin pour meilleure fortune. Mais après la saison des pluies, ils n'ont pas d'activité justement champêtre. Le gypse que nous rachetons leur permet d'avoir des revenus. Alors ça, ce n'est que cet exemple. Dans le cadre de la téléphonie, vous savez très bien, vous voyez quand vous venez en Afrique, toutes ces kiosques, tous ces marchands ambulants de cartes à gratter, c'est des dizaines de milliers d'emplois. Donc oui, monsieur Boris, j'ai contribué à sortir des milliers de Nigériens de la pauvreté.
Julien Clémenceau.
Alors, dans deux mois, Niamey accueillera un sommet spécial de l'Union africaine consacré à l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale. Est-ce que les entreprises nigériennes seront en mesure de profiter de ce nouvel espace pour commercer?
Écoutez, soyons francs. Si nous pouvons partager la vision des inspirateurs de cette zone de libre-échange, c'est-à-dire accroître les échanges commerciaux interafricains, aujourd'hui qui sont faibles, créer des emplois, accroître une croissance économique soutenue au niveau des pays africains, nous pouvons partager cela. C'est tout à fait louable. C'est vrai que cette zone de libre-échange, on attend un accroissement de l'ordre de 50% des échanges commerciaux dans un horizon de 2-3 ans. C'est ce représente à peu près 34 milliards de dollars. Tout ça, c'est vrai. Maintenant, il y a l'envers du décor. Cette zone de libre-échange, elle ne peut pas se créer comme ça, de manière ouverte, sans prendre un certain nombre de précautions. Vous avez parlé tout de suite des entreprises nigériennes, mais ça peut être des entreprises d'autres pays. Parce que, au fond, si on peut l'imaginer comme ça, c'est comme si on dit, à un moment donné, à tous les boxeurs du continent, montés sur un ring, il n'y a plus de catégorie. Plume, coque, lourd, mi-lourd, moyen, monter, commencer à combattre, et puis on se met autour du ring, on va continuer, on va compter les survivants après. Ça, ce n'est pas possible. Forcément, il y a des forces d'inégale capacité entre les entreprises.
Quel type de mesures d'accompagnement vous aimeriez voir mises en place?
Mais c'est des mesures déjà d'asymétrie. D'abord, il faut qu'il y ait des moratoires pour que on dise les entreprises, avant de commencer à compétir, il faudrait au moins que certaines puissent être déjà remises à niveau en donnant un délai, donc un moratoire, pour que ces entreprises puissent être mises à niveau. La deuxième chose, on l'a vu dans les discussions, j'ai eu l'honneur de participer à l'équipe de négociateurs pour le compte de la CDAO avec les APE et la suite des accords de Cotonou. On a négocié une asymétrie, une ouverture donc en fonction de deux blocs, et qui soit plus rapide au niveau de l'Europe et moins rapide au niveau de l'Afrique, bien entendu. Et tout ça, c'était pour permettre aux entreprises de se préparer, parce que vous ne pouvez pas mettre des personnes qui sont de catégories différentes, comme j'ai dit, sur le même ring pour boxer au même moment, c'est pas possible. Il faut donner à certains la chance de pouvoir remonter un tout petit peu. Et ça, c'était pour éviter effectivement que les entreprises africaines puissent se faire avaler par des géants industriels européens. Mais il ne faut pas qu'on reproduise les mêmes problèmes ici dans la zone de libre-échange, parce qu'il y a des géants également africains, mais il ne faut pas qu'ils avalent des petites entreprises africaines. Maintenant, une fois que vous êtes avalé, la couleur de l'estomac importe peu. Mais il n'est pas question d'éviter d'être avalé par un géant européen et puis d'accepter d'être avalé par un géant africain. Je crois que votre sort sera le même, quel que soit l'estomac dans lequel vous tombez.
À quel horizon vous pensez qu'elle peut être mise en place véritablement?
Ça nécessite quand même qu'on puisse s'asseoir et puis voir à quel niveau de développement, quelle est la marge qu'on se met, quel est le délai qu'on se donne pour estimer que certaines entreprises doivent pouvoir être remises à niveau. Parce que au fond, je ne pense pas que l'objectif soit de dire...
Mais il y aura toujours des retardataires.
Il y aura toujours des retardataires, mais il faut que presque le maximum de pays trouvent leur compte. Il n'est pas question que certains pays deviennent des champs de ruines industrielles, alors que d'autres puissent tirer complètement leur épingle du jeu. Il est question que dans cette zone de libre-échange, on puisse donner le maximum de chances à tous les pays pour qu'au moins certains sauvent certains secteurs, d'autres peut-être des secteurs plus importants. Les retombées seront inégales, mais il faudrait que
mais
les gens
en,
trouvent
en clair,
compte.
Vous êtes contre cette zone de libre-échange
Je ne suis pas contre. Ce que je dis ne s'associe pas à quelqu'un qui est opposé, mais ce que je dis vient de quelqu'un qui dit qu'il faut le faire avec des précautions. Et lorsque vous voyez un pays comme le Nigeria, dont on pensait qu'il a tout à gagner à cette zone de libre-échange, qui a des réticences qui traînent les pieds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont fait leur calcul, ils se sont rendus compte peut-être que dans un certain secteur, ils vont gagner parce qu'ils ont des géants industriels. C'est sûr qu'ils vont survivre à cette compétition. Mais très certainement, le tissu de petites, moyennes et micro-entreprises, très certainement, va être extrêmement impacté. Or, c'est ce tissu qui est la vitalité économique de nos pays.
Est-ce que le Niger a ratifié la mise en place de la zone économique de libre-échange?
Le Niger et le président de la République, c'est lui qui est le responsable du processus, en fait, de la mise en place de la zone de libre-échange.
Et vous avez l'occasion d'en parler avec lui?
On a l'occasion d'en parler avec lui, bien entendu.
Alors, une dernière question, Ibrahim Diango. À plusieurs reprises, le président Macron a estimé que la natalité africaine était un problème pour le développement du continent. Lors de son voyage officiel au Tchad en décembre dernier, il a répété ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la natalité, par exemple au Niger, est un problème pour le développement du pays?
Moi, je pense que à partir du moment où vous avez un taux de progression démographique qui est élevé et que vous avez un taux de croissance économique qui ne permet pas de résorber le besoin induit par cette démographie importante, ça devient un problème. Maintenant, sur quoi il faut jouer? Il faut jouer sur la croissance économique, sur les activités. Et on estime qu'à partir d'un taux de croissance de 7%, il y a une réduction. On peut commencer à avoir une décrue de la pauvreté. Le Niger s'approche de ce taux de 7%. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut combiner plusieurs éléments. Il y a la progression du taux de croissance économique. Mais en plus, je pense qu'il faut agir sur les méthodes de maîtrise de cette croissance démographique. Alors, on cite souvent le problème de la religion, etc. Mais il y a des pays qui partagent la même religion, les mêmes éthiques, etc., que le Niger, qui ont réussi. Je pense qu'il faut s'inspirer de cet exemple.
Eh bien, c'est sur cette parole optimiste que se termine cette émission. Ibrahim Diango, merci d'avoir accepté l'invitation de RFI et Jeune Afrique. Cette émission a été réalisée par Sophie Janin. Vous pouvez nous réécouter sur nos sites internet respectifs RFI.fr ou jeuneafrique.com. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.